Il y a un verset dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, qui est commenté par le Midrash. Il est écrit dans le verset Mi zot ola min amidbar, que timrot tashan. On va essayer de traduire. Mi zot ola min amidbar. Qui est celle-ci qui monte du désert? Que timrot tashan, comme des colonnes de fumée. Mekuteret mor ou levona. Qui embaume mor ou levona, ce sont des parfums. Mikol avkat rochel. Plus que tous les parfums qu'on puisse proposer. Encore une fois, mizot ola min amidbar. Mekuteret mor ou levona. Mikol avkat rochel. C'est ce qui nous intéresse. Le Midrash dit, qu'est-ce que ça veut dire Mizot Ola Minamidbar? Iluya Minamidbar, Mitata Minamidbar. Le peuple juif, Iluya Minamidbar, est devenu grand du désert. Il monte du désert, ça veut dire il a grandi dans le désert. C'est un fruit du désert. Et mitata minamidbar, et sa perte, c'est aussi le désert. Torah minamidbar, la Torah vient du désert. Mishkan minamidbar, le sanctuaire qu'avaient construit les enfants d'Israël dans le désert, le Ohel Moed. Sanhedrin minamidbar, le Sanhedrin de 71 membres. Keuna minamidbar, la prêtrise, le Viyam Inamidbar, les Leviim, ceux qui faisaient le service au temple, et Malchut Minamidbar, la royauté vient du désert. Avant d'essayer d'expliquer ce que veut dire le Midrash, on va essayer de comprendre d'abord ce que veut dire Minamidbar. Le verset dit, Mizot Ola Minamidbar, Ketimrot Hashan. Qui c'est qui vient du désert? Le peuple juif est né dans le désert. Qu'est-ce que ça veut dire naître dans le désert? Peut-être que naître dans le désert, ça veut dire avoir une indépendance, avoir une référence qui est la sienne et qui ne vient pas de l'extérieur. Peut-être Midbar, le désert, ça veut dire que lorsque le peuple juif ou un juif pense quelque chose, pratique quelque chose, ça ne vient jamais de l'extérieur. Ça n'est pas copié ni sur l'un ni sur l'autre, ça n'est pas influencé ni par l'un ni par l'autre, mais c'est quelque chose d'original. Olé mina Midbar. On ne peut pas dire que la civilisation de la Torah, c'est le produit de telle civilisation. On ne peut pas dire que les lois qui sont dans la Torah, elles ont été influencées par telle civilisation. Aucun philosophe n'a eu le droit de mettre un article dans la Torah. Ça s'appelle Ola Minamidbar. Le Midrash dit, Iluya Minamidbar, la grandeur du peuple juif, c'est Minamidbar, ça vient du désert. Et Mitato Minamidbar aussi, sa perte, c'est parce que il est seul. Seul, pas dans le sens abandonné, mais seul dans le sens que la référence ne se trouve pas à l'extérieur, mais elle se trouve à l'intérieur. La référence du peuple juif n'a jamais été et ne pourra jamais être à l'extérieur. Peut-être comme ça on peut comprendre le Midrash. Mizot ola minamidbar. Mekuteret mor ou levona. Chargé des parfums qui s'appellent mor et levona. Ça veut dire que on peut avoir quelque chose à dire sans fatalement copier ce qui a déjà été dit et ce qui se dit à l'extérieur. Mikol avkat rochel, ça veut dire que je pourrais avoir moi quelque chose à vendre que je n'ai acheté ni à l'extérieur ni que j'ai copié de l'extérieur. Mekouteret, Mor Levona, on peut avoir un parfum, les autres peuvent sentir quelque chose, c'est vous, et ça n'est pas le reflet des autres. C'est quelque chose d'original. Si on comprend comme ça le Midrash, alors on peut comprendre non seulement Iluya Minamidbar, que tout ce qui a grandi dans le peuple juif, c'est de l'intérieur, mais aussi Mitata Minamidbar, ce qui va perdre le peuple juif, Mitata, c'est-à-dire la mort, c'est aussi de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Ensuite, le Midrash dit Torah Minamidbar. Il est vrai qu'il est troublant que la Torah n'ait pas été donnée dans un endroit où on aurait pu avoir une audience plus grande que le désert. C'est vrai que d'un côté, dans le désert, ça n'appartient à personne, tout le monde peut y venir. Mais d'un autre côté, on sait bien que les autres n'étaient pas là. Donc lorsque l'on dit Torah Minamidbar, ça voudrait dire que il y a une originalité dans la Torah qui fait qu'elle se suffit à elle-même. Mishkan Minamidbar. La façon dont le peuple juif s'adresse à Kadosh Baruch Hu, ça aussi c'est original dans le peuple juif. Si l'on étudie le Mishkan, si l'on étudie le temple du Yerushalayim après, on verra que rien n'a jamais ressemblé à ça, et rien ne ressemblera jamais à ça. Tous les temples qui ont été érigés par toutes les nations du monde, ça a toujours été ou pour y placer une idole, ou pour y placer quelque chose d'autre, mais il n'y a jamais eu un temple qui ne soit fait que d'ustensiles. Vous savez que dans le temple à Yerushalayim, il y avait le Mizbeach, l'autel, il y avait la menorah, le candélabre, il y avait le haron, là où étaient placées les tables de la loi. Ça, c'est le temple à Yerushalayim. Ça veut dire que c'est quelque chose d'original. On s'adresse à quelqu'un qui n'est pas là, et on place certains ustensiles, dont chacun a une signification, comme si c'était là pour dire que ce temple s'adresse autant à l'homme qu'à Kadosh Baruch Hu. Dans chaque ustensile qui servait au Beth Amikdash, il n'y a rien qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Tout s'adresse à l'homme. Le chandelier, ce n'est pas pour éclairer qui que ce soit. La table où on mettait les pains d'assignation, ce n'est pas pour donner à manger à qui que ce soit. Il y a une originalité dans le Mishkan qui fait qu'on appelle ça Olé Minamidbar. La même chose que Ouna et le Via. Chez tous les peuples, il existe des prêtres. Il n'a jamais existé dans le peuple juif un pouvoir des Kohanim. Ça veut dire que le Kohen, c'est un rôle. Le Lévi, c'est un rôle. Ce n'est pas un pouvoir. Ça aussi, c'est Minamidbar. Ici, le Midrash, il n'en dit pas plus. Il dit Malchut Minamidbar, la royauté aussi. La royauté chez le peuple juif, non plus, ça n'est pas simplement un pouvoir. Puisque cette royauté, elle s'adresse depuis le roi David jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Et elle est d'un type différent de toutes les royautés. Selon le Midrash, dans Vayikra, au troisième Perek, il y a encore d'autres choses. Il dit Aaron Minamidbar, Moshe Minamidbar. Il y a des gens qui ne peuvent grandir que Minamidbar, que si c'est quelque chose d'original. Aaron et Moshe ce sont des purs produits du désert. Pour preuve que Minamidbar, ça veut dire original, ça veut dire quelque chose qui est venu de l'intérieur, on n'en a que le Midrash dans Vaïkra applique le même verset à Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Le Midrash dit, les Chachamim ont appliqué ce verset à Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Mizot olam min hamidbar, que timrot hashan mekuteret mor ulvona mikolav katrochel. Ça c'est Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon avait ceci de particulier, à la différence des autres Chachamim, que très jeune, il a été enfermé pendant 13 ans dans une caverne et qu'il a étudié la Torah. Ça aussi, ça veut dire que Minamidbar, c'est qu'un juif a en lui quelque chose qui fait qu'il n'a pas besoin de copier ce qui est autour, mais qui peut se développer de lui seul. C'est que Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, qui lui n'a pas eu la chance d'être l'élève des grands yeshivot de ce temps-là, est quand même devenu ce qu'il est devenu, et c'est pour ça qu'on disait qu'il est Olé Min Hamidbar. Lui, il s'est constitué seul. Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre de ce Midrash. Seulement, on ne peut pas ne pas le rapprocher du pshat de Rashi, de ce verset-là. Rashi, si vous regardez Rashi dans Shir HaShirim, Rashi dit à propos de ce verset, « Mizot Olam Min Hamidbar ». Qui est-ce qui monte du désert que Timrot Hashan? Il dit, c'est le peuple juif. Umot haolam, ce sont les peuples de la terre qui se demandent, Mizot olam min hamidbar. Quel peut bien être ce peuple qui vient du désert? Que Timrot Hashan, il était accompagné par la nuée qui le précédait jour et nuit, qui était la présence d'Akadosh Baruch Hu pour guider le peuple dans le désert. Mekuteret, mor ou levona. Ça, ce sont tout ce que le peuple juif peut apporter à l'humanité. Mikol avkat rochel. Ça veut dire qu'on ne parle pas seulement de l'individu. Ça n'est pas seulement dans l'individu qu'il y a une mala, qu'il y a quelque chose de grand, de se construire soi-même, Minamidba, Moshe Aaron, mais c'est dans tout le peuple juif par rapport aux nations de la terre. Cette idée est particulièrement intéressante. Parce que normalement, on croit que c'est le contraire. On croit que quelqu'un, plus il se remplit de ce qu'il y a autour de lui, plus il grandit. Et c'est peut-être ça l'originalité de la Torah, de ce qui est demandé au peuple juif et aux juifs en particulier. Moshe Rabbeinu, c'est un produit du désert. Il n'a pas copié ni Pharaon, il n'a rien copié. Il y a quelque chose qu'il a appris, lui. Il a une force en lui, et c'est pour ça qu'on l'appelle Olé. Il monte Minamidbar tout seul. Tout le monde connaît le texte dans les Pirkei Avot, au premier chapitre des Pirkei Avot, après qu'on ait parlé de Beth Shammai et Beth Hillel, les élèves de Shemaya de Haftalion ont dit « Huaya Omer », voilà ce qu'il disait, « Im ein ani li, si je ne suis pas pour moi, mi li, qui va l'être ?» C'est-à-dire, si je ne me débrouille pas tout seul, si je ne m'en sors pas tout seul, mi li, qui c'est qui va pouvoir m'aider? On va essayer de comprendre ce que veut dire cette Mishnah. Parce que tout de suite après, on dit « Imeinani limili » si moi, je ne m'occupe pas de moi-même, qui va s'en occuper? Il est marqué « Urcheani le'atzmi » mais lorsque je suis tout seul, « Ma'ani » je ne vois rien. « Ve'imlo arshav » et si on ne fait pas maintenant, « Ematai » quand est-ce qu'on fera? Ça, c'est le texte de la Mishnah, tout le monde la connaît. « Imeinani limili » si je ne suis pas là pour moi, qui va l'être? Urcheani la'atzmi, et lorsque je suis seul, ma'ani. Qu'est-ce que je suis? Ve'imlo arshav, et si ça n'est pas maintenant, et matai, quand ce sera? Alors on va essayer d'expliquer la Mishnah. Nous on a l'habitude de comprendre que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un et qu'on lui a bien expliqué quelque chose, on reçoit l'écho de notre explication dans la compréhension de l'autre. J'ai un voisin, il y a des choses qu'il ne comprend pas, je suis gentil avec lui, je lui explique. Et je crois qu'après sa conduite, ou sa réflexion, elle m'appartient un petit peu parce qu'il est l'écho de ce que je lui ai dit. Ici, dans la Mishnah, il est marqué que ce n'est pas vrai. Si de moi-même, je n'adhère pas à une idée, « im einani li mili », personne ne peut répondre à moi, ça vient de l'intérieur. « Mizot ola minamidba ». On ne grandit pas des autres, on grandit de soi-même. Im ein ani limili, ça veut dire que je peux expliquer à quelqu'un 100 fois, 1000 fois la même chose. Si lui de lui-même, il n'a pas réussi à créer l'écho, moi je ne peux rien faire. Tout le monde connaît l'histoire de Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham Avinu. Lot avait eu des problèmes avec Abraham. Parce qu'ils n'avaient pas la même éthique que lui. Alors ils ont décidé de se séparer. Plutôt Abraham Avinu lui a demandé de partir. Et il a choisi d'aller habiter Sodome. Un jour, les trois anges qui étaient venus chez Abraham Avinu, chacun avait une mission. La mission d'un des anges, c'était de détruire Sodome. Pas seulement Sodome, quatre villes, Sodome, Vamora, Adma Utsoim. Il y avait toute une région qu'on a décidé de détruire. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire cette région-là? Parce que c'était le ferment de tout ce qui est contraire à la Torah. Alors, on a envoyé les anges chez Lot. Et l'ange l'a averti, il lui a dit, voilà, Imalet nal nafshecha, va-t'en vite. Parce qu'aujourd'hui, on va détruire Sodome. On lui a dit exactement tout ce qu'on allait détruire. On lui a montré sur la carte, voilà, de là à là. Il a demandé, où est-ce que je vais partir? On lui a dit, tu vas t'en aller à Hara. Va-t'en vers la montagne. Rashi dit, c'est quoi Hara? La montagne, c'est Avraham Avinu. Tu vas retourner chez Avraham Avinu. Tu as fait une mauvaise expérience. Tu vois où tu en es. Tu es encore un petit peu mieux que les autres, alors on va te retirer de la fournaise et tu vas t'en aller chez Avraham Avinu. Alors l'autre lui a dit, oh là là, moi j'ai peur. J'ai peur que le mal m'atteigne jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Ou que le mal m'atteigne là-bas et que je meurs. Il a peur d'aller chez Abraham Avinu. L'ange lui demande alors où tu veux aller. Il dit, l'autre, il dit, tu sais quoi? Tu vas, au lieu de tout détruire, tu vas laisser une petite partie. Mitzar. Mitzar, c'est une petite ville. Laisse-moi une petite ville et puis je reste ici, c'est mieux. Et paradoxalement, l'ange, au lieu de lui dire, écoute, on m'a envoyé chez toi pour te sauver, c'est pas pour t'envoyer de nouveau vers des gens qui sont comme ceux de Sodome, puisqu'il était prévu de détruire Mitzar, c'est donc que ça valait pas beaucoup mieux que Sodome. L'ange lui dit, bon, puisque tu me le demandes, alors je vais épargner la ville de Mitzar et tu pourras aller te réfugier à Mitzar. Mais on va essayer de réfléchir. Quelqu'un qui s'appelle Lot, qui habitait chez Avraham Avinu, pour des petits problèmes, parce que ses bergers à lui n'étaient pas très rigoureux vis-à-vis des interdictions de la Torah concernant le vol, concernant les rapports entre les hommes, Abraham lui a demandé de partir. Il n'a rien trouvé mieux que d'aller à Sodome. Au moment où on va détruire Sodome, on lui donne encore une occasion. Va-t'en chez Abraham Avinu. C'est une suggestion d'un ange. Il dit, non, non, chez Abraham Avinu, moi je ne veux pas en aller. Il préfère aller à Mitzar. Qui est-ce qui est plus en sécurité à Mitzar que chez Abraham Avinu? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Alors Rashi, il essaie d'expliquer ça, il dit, ben c'est très simple. C'est beaucoup plus facile d'aller habiter Mitzar que d'aller habiter chez Abraham Avinu. Parce que Lot, c'était un tzadik à Sodome. Et s'il allait se retrouver chez Abraham Avinu, il allait faire figure du rachat. Il était tzadik etzel rochaïm, mais il aurait été racha etzel tzadikim. Alors il a préféré chercher un entourage qui ressemblait au sien, Mitzar. Alors on va imaginer, voilà, on est un ange envoyé par Akadosh Baruch Hu, donc on doit avoir toutes les motivations, toute la force de persuasion possible, et on va s'adresser à Lot et il vous répond une réponse pareille. Moi je ne veux pas laisser Abraham Avinu. Pourquoi ? Parce que j'aime pas être le petit chez les grands, je préfère être le grand chez les petits. Si quelqu'un vous tient un discours pareil, vous dire d'abord, toute la Bible est pleine du contraire. On sait que même David Amelech a dit, il vaut mieux être Zanav, le harayot, il vaut mieux être à la queue des lions plutôt qu'à la tête des brebis. Si quelqu'un veut grandir, il vaut mieux arriver chez Abraham Avinu plutôt que d'être le grand chez ceux qui ressemblent à Sodome et Gomorrhe. L'ange ne lui a rien dit. Et ça panecha. Il a dit, je fais ce que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire? On entend un discours de Lot, on entend un discours de quelqu'un qui n'a rien compris. La première fois, il n'a rien compris, on est venu le sauver. Une deuxième fois, il ne comprend rien. Viens, explique-lui. Ça vaut la peine de perdre 5 minutes. Et de commencer à discuter avec lui. Et s'il ne comprend pas, il y a des gens qui ne comprennent pas avec le discours, on va lui faire comprendre un peu autrement. On a des moyens de persuasion? Non. L'ange dit, tu veux? Voilà. Ça, c'est l'illustration de ce qui a marqué Im Ein Ani Li Mili. Si moi, je ne veux pas pour moi, Mili, personne ne peut vouloir pour moi. Là-dessus, on est seul. On ne peut pas persuader, ça n'existe pas. On ne peut pas vivre la vie des autres. On ne peut pas se mettre à leur place, on ne peut pas les manipuler. Ça, c'est ce que le Midrash est en train de dire ici. Mizot ola minamidbar. On ne peut pas bâtir quelque chose en copiant sur les autres. On ne peut pas être quelque chose en copiant sur les autres. On est obligé d'avoir quelque chose de soi-même. On est obligé d'avoir une force en soi qui fait que son soutien, c'est soi-même. Alors, on va continuer la Mishnah. Urshéani la atzmi, mais lorsque je suis tout seul, ma'ani, qu'est-ce que je suis? Là, ça semble contradictoire. Mais en vérité, ce n'est pas contradictoire. Tout le monde sait, la Gemara le dit, c'est un midrash aussi très connu, Rabbi Eliezer ben Hourkanos, le jour où on lui a donné la smicha, où on l'a nommé Rav, il a enseigné et il a dit des choses chez Ozen Loshmatan Meolam. Il a expliqué la Torah. Il y a trouvé quelque chose que personne n'avait jamais entendu jusqu'à ce moment-là. Et pourtant, la Gemara dans le traité de Yuma, elle dit au nom de Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer a dit, Meolam lo amarti davar, je n'ai jamais dit quelque chose que je n'ai pas entendu de la bouche de mes maîtres. Le même Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer ben Hourkanos, le même Rabbi Eliezer a enseigné et a trouvé dans la Torah une profondeur que Ozen lo shmatan meolam, personne n'avait jamais entendu ça. Et d'un autre côté, le même Rabbi Eliezer, il vient et dit, je n'ai jamais enseigné ni dit quelque chose que je n'ai pas entendu de mes maîtres. S'il a entendu de ses maîtres, c'est qu'on a déjà entendu ça. Peut-être que la réponse est simple. L'élève a besoin du maître. Mais l'élève qui est un vrai élève, ce n'est pas celui qui répète ce que le maître dit. C'est premièrement celui qui peut trouver dans les paroles du maître peut-être ce que le maître lui-même ne soupçonne pas. Et peut-être c'est celui qui est devenu tellement l'élève du maître, c'est que lorsque le maître n'est pas là, il arrive à reconstituer ce que le maître aurait dit. C'est devenu son enseignement. Rabbi Eliezer a dit des choses chez Ozen Oshmatan Meolam, personne n'a jamais entendu ça. Comment c'est possible? c'est qu'il a reconstitué ce que ses maîtres auraient dit. C'est que peut-être il a trouvé même dans l'enseignement de ses maîtres ce que ses maîtres n'ont pas dit. Si je ne m'en sors pas tout seul, personne ne peut rien pour moi. Mais si je suis tout seul, là, je ne vois rien du tout. Un homme a besoin des autres. Un homme a besoin d'enseignement. La différence entre celui qui copie, la différence entre celui qui répète et celui qui étudie, c'est que celui qui étudie, l'enseignement, il devient le sien. C'est qu'il trouve des choses que ses maîtres n'ont pas dit, et pourtant, c'est dans l'enseignement de ses maîtres. Je suis obligé de m'en sortir tout seul. Je ne peux pas, moi, faire ce que les autres font. On est obligé d'être original. On doit avoir une force en soi qui fait que son équilibre vient de l'intérieur. À partir de ce moment-là, on peut comprendre que s'il n'y a pas l'extérieur, on ne vaut rien. Mais si on n'a pas compris ça, on n'est que le reflet de l'extérieur. On ne vaut rien. Si on continue ce raisonnement-là, on va comprendre la suite. Veimlo Arshav, et si ça n'est pas maintenant, et Matai, quand ce sera. La différence entre celui dont les idées viennent de l'intérieur et celui dont les idées viennent de l'extérieur, c'est que celui dont les idées viennent de l'extérieur, il peut bâtir des rêves formidables. Il peut avoir des projets incalculables. Mais il n'y a rien qui est Arshav maintenant. Lorsqu'on répète, on reconstruit ce que l'autre a fait. Ce n'est pas ça qu'on te demande. On te demande Arshav, qui tu es. Veimlo Arshav. Et si maintenant tu ne sais pas prendre les choses avec cette force intérieure qui doit exister parce que tu es Olé Minamidba, et Matai, jamais ça n'arrivera. On ne peut pas recréer ce qu'on a copié. On ne peut que vivre ce qu'on a en soi. Arshav, maintenant. Ça, c'est ce qui est exigé du juif. Parce qu'il faut croire que puisqu'il a été formé, il a été créé dans le désert, il a cette force-là. C'est comme ça qu'on peut comprendre Olé Minamidba. Chaque juif, il est Olé Minamidba. Avec ça, on va pouvoir comprendre beaucoup de choses. On va comprendre une Gemara qui est bizarre dans le traité de Shabbat d'Av Petet. La Gemara dit ceci. Il y a une discussion. Comment s'appelle le mont Sinaï en vérité? La Gemara dit le mont Sinaï s'appelle Chorev. Pourquoi est-ce que la Torah l'a appelé Sinaï? Parce qu'à cause de lui, Yarda Sina Leakum Alav. C'est à cause de ce Sinaï que les non-juifs nous en veulent. Ça vient du mot Sina, la haine. C'est pour ça que ça s'appelle Sinaï. Pourquoi est-ce qu'ils m'en veulent? À qui est-ce que j'ai fait quelque chose? Ils m'en veulent pour une seule raison. Mizot Ola Mina Midbar que Timrot Hashan. Il dit Rashi, les peuples de la terre, ils voient le peuple juif. Qu'est-ce qu'il est venu ce nouveau-là? Qu'est-ce qu'il a toujours de nouveau à nous proposer? Il ne copie rien, on est obligé de le copier. Mizot Ola Mina Midbar. Sinaï, cette montagne s'appelle Sinaï, parce que c'est de là qu'est venue, ou en tout cas c'est par elle, que passe la Sina, la haine du non-juif pour le juif. Et là, on va pouvoir apprendre le verset littéralement. Mizot Ola Mina Midbar. Qui est celui-ci qui monte du désert? Que Timrot Hashan. Il est conduit par une nuée. Celle qui conduisait le peuple juif dans le désert. On va sentir confusément qu'il est conduit. Il n'est pas seul. Et pourtant, il est Olé Minamidbar. Il a une référence, c'est le Sinaï. Et lui, de chez lui, vont sortir toutes les idées. Mekuteret, mort ou levona. Il est parfumé de mort et de levona. Mikol avkat rochel. Mikol avkat rochel, ça veut dire. De lui va sortir un parfum qu'on ne peut trouver chez aucun marchand du monde. Là, c'est comme ça que Rashi, regardez Rashi dans Shirashi, il traduit ce verset comme ça. Mizot olam min hamidbar, c'est le peuple juif. C'est vrai que le Midrash dit, c'est pas seulement le peuple juif, c'est aussi individuel. C'est Moshe, c'est Aaron, c'est Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon. Il n'y a pas seulement le peuple entier, il y a aussi l'individualité. Parce qu'en fin de compte, le peuple juif, il n'est là que pour aider l'individu. Il n'est là que pour donner un cadre à l'individu. C'est ça qu'on appelle le klal Israël. Klal, ça veut dire ce qui englobe. Parce que imenani li mili, c'est vrai, si je ne m'en sors pas tout seul, seulement l'irshani la atzmi, si je suis vraiment seul, mani, je ne vois rien. On a besoin d'un klal autour de soi. La Gemara, elle continue dans le traité de Shabbat, la Gemara, elle dit, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, ils disent c'est le contraire. En vérité, cette montagne s'appelait Sinaï. Et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Chorev? Parce que c'est de là que viendra la destruction des peuples de la terre. Alors de tous les côtés, tu t'en sors plus. Si ça s'appelle Sinaï, tu comprends pourquoi ils t'en veulent. Et si ça s'appelle Chorev, c'est Milachon Chorva. Ça veut dire qu'on a démontré à l'autre qu'il n'a pas d'avenir. Il ne fait que copier. C'est peut-être comme ça qu'on peut comprendre que la civilisation juive, elle parle toujours du Arshav, maintenant. La situation dans laquelle on est, on ne va pas dire qu'elle importe peu parce que c'est le confort ou l'inconfort, mais elle n'a pas une grande importance. Le problème, ce n'est pas ce qu'on va devenir. Le problème, c'est ce qu'on est, Imlo Arshav. Tous les peuples de la terre ont passé leur temps à construire des civilisations. Des civilisations qui devaient durer des millénaires. À construire des systèmes. Et paradoxalement, ils sont dans le Arshav. Ils ne vivent que dans le présent. Et le peuple juif, lui, c'est le peuple qui vit pour l'avenir. Et paradoxalement, il vit dans le présent. Ce qui est intéressant, et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Lorsque quelqu'un a un avenir assuré, lorsque quelqu'un a un sens des choses qui est intégré en lui, il peut vivre dans le présent. Il doit vivre dans le présent. Parce que comme ça, il bâtit l'avenir. Lorsque quelqu'un n'a aucun sens des choses, il va bâtir pour l'avenir. Et le présent n'a plus aucune réalité. Il n'a plus aucune valeur. On ne sera jamais rassasié du présent. On va essayer de construire pour l'avenir. Et encore, et encore. On construit toujours quelque chose, on a toujours un projet. Ça ira toujours mieux demain. Et pourtant, on vit dans le présent, on n'a rien d'autre à faire que le présent. Chez le Klal Israël, c'est le contraire. On vit pour l'avenir. On vit pour un monde futur. Mais qu'est-ce qui a de l'importance? Le présent. Comment je me conduis maintenant? Parce que c'est comme ça que je me bâtis mon monde futur. Mizot olam min hamidbar. Si on comprend que le peuple juif, c'est celui qui olé min hamidbar, il monte du désert, ça n'est pas le reflet des autres, alors on peut comprendre qu'il y a une haine. On peut comprendre que ça passera jamais, ça. On peut comprendre qu'on va vous reprocher au même instant, au même moment, et les mêmes personnes, de faire partie de la juiverie, c'est-à-dire de l'impérialisme, c'est-à-dire du capitalisme international, et en même temps, vous faites partie du bolchevisme. Comment est-ce qu'on peut avoir la chance d'être accusé des deux mots en même temps? Pour une seule raison, parce que Ola Minamidbar, parce que c'est vrai. Parce que les deux idées, peut-être qu'elles viennent du peuple juif. Parce que peut-être on essaye de vivre d'une façon indépendante. Pas en copiant. C'est sûr qu'on a besoin d'un autre. Tout seul, on ne s'en sort pas. Mais on a besoin d'un autre pour pouvoir savoir qui on est. On a besoin que l'autre nous parle pour pouvoir se faire une idée. Pas pour vivre la vie de l'autre ou pour recopier ce que l'autre a fait. Ça, c'est ce qu'on appelle Olé Minamidbar. Moshe, Olé Minamidbar. Moshe Rabbeinu, ça n'est le produit d'aucune civilisation. Il s'est fait lui-même. Un homme doit se faire lui-même. Et si c'est comme ça, on va pouvoir comprendre une idée qui normalement est incompréhensible à l'échelle d'un peuple. Il y a une Gemara dans le traité de Baba Metzia. La Gemara dit ceci, Daf Pei Gimel dans Baba Metzia, elle raconte une histoire. Rabba Bar Bar Chana. Rabba Bar Bar Chana a employé des ouvriers pour lui déplacer des tonneaux. Ces ouvriers ont cassé les tonneaux. Ils n'ont pas voulu les payer. Alors il a pratiqué une saisie. Tafaz glimai. Il leur a pris leurs vêtements. C'est comme ça l'alakha. Il a le droit. Moi je donne du travail à un employé. Le travail n'est pas fait, il m'a cassé ce qui était à moi. J'ai le droit de lui demander de payer. Ils sont allés chez Rav. Rav a convoqué Rabba Bar Bar Chana et lui a dit, rends ce que tu as saisi. Rabba Bar Bar Chana était étonné, il dit, je rends, pourquoi je rends? Je sais moi ce qui est marqué dans la Mishnah. Dinahi, est-ce que c'est comme ça le din? Tout étonné. Rav lui a dit, in, oui. Et il lui sort un verset dans Michelet. Ni il lui parle de la Mishnah, ni de lui parle de ceci, de ça, il sort un verset dans Michelet. Le man teler bederer tovim. La Torah a été donnée à l'homme afin que teler, tu puisses aller bederer tovim, dans le chemin des bons. C'est-à-dire qu'un homme doit être bon. Il ne doit pas s'en tenir à la règle. Il a rendu. Alors bien entendu, les ouvriers ne sont pas restés de reste. Ils sont venus de nouveau chez Rav. Ils leur ont dit, mais maintenant on a travaillé, on doit avoir un salaire. Rav a convoqué Rav à Khanapay. Il lui dit, dinari. Alors là, tu es sûr que le din, c'est comme ça. Et lui dit, oui, regarde la fin du verset. Ve'orot tzadikim tishmor. Et que les voix des tzadikim, les voix des justes, tu puisses les garder. Voilà le din. Demande le Gaon de Vilna. Il faudrait savoir. Est-ce que lorsque quelqu'un me casse quelque chose, j'ai le droit de lui demander des comptes, oui ou non? Si on vient avec des recommandations d'ordre moral, le man teler bederech tovim, orchot tzadikim tishmor, alors c'est plus la peine de faire la Mishnah, c'est plus la peine de décider de la halakha, c'est plus la peine de légaliser les choses. Et pour le Gaon de Vilna, il dit, ça aussi c'est une halakha. La halakha, elle est très simple. On t'a cassé quelque chose, c'est le droit de te faire récupérer. Mais si l'autre n'a pas, si l'autre ne peut pas, alors à ce moment-là, la halakha, elle est, toi, tu dois monter d'un cran. Monte une marche. Le man teler bederer tovim. Parce que ça t'arrive pour que tu puisses aller dans le chemin des bons. Et si jamais ils exigent encore un salaire parce que ce jour-là ils avaient besoin de manger et qu'ils n'ont pas eu de quoi manger, alors tu vas monter encore d'une autre marche. Et à ce moment-là, ve'ochot sadikim tishma. La différence entre le début du verset et la fin du verset, elle est simple. Il dit le Gaon de Vilna, le man teler bederer tovim, ça veut dire, je te donne l'occasion, le man, afin que tu puisses marcher dans le chemin des bons. Ça, c'est un goût de marcher dans ce chemin des bons. Ça vaut la peine de dépenser de l'argent pour ça. Ça, c'est l'occasion. Ça, c'est pour t'introduire dans un chemin. C'est le chemin des bons. Maintenant, il y a une madriga. Il y a un niveau où on peut aller encore au-dessus de ça. Ve'ochot tzadikim tishmor. Les voies des justes, c'est à toi de les garder. Il existe des chemins qu'on emprunte et il existe des chemins que l'on garde. La différence entre Tovim et Tzadik, c'est que Tov, c'est celui qui est bon, et Tzadik, c'est encore plus que bon. Ocho Tzadikim Tishmor. C'est que peut-être quelqu'un, lorsqu'il a compris que quelque chose est bon, après, il comprend en plus que c'est juste. D'abord, il a compris que c'était injuste, mais il le fait parce que c'est bon. Peut-être après, s'il a encore l'occasion et que ça va lui coûter encore un petit peu d'argent, alors là, il va comprendre. Ça, ce sont les voies des justes. Si on comprend ce que veut dire ici le Gaon de Vilna, et c'est comme ça que l'on peut comprendre la Gemara, ça veut dire que la halakha, elle n'est pas la même pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui, lorsqu'il ira chez Rav, il demandera « Dina Ahi, est-ce que c'est ça le din ?» On va lui dire « Oui, c'est ça le din. » Il y a quelqu'un à qui on ne dira pas « C'est ça le din. » Le din n'est pas le même pour tout le monde. Comment est-il possible que le din n'est pas le même pour tout le monde ? Rav Avraham en exige de lui. On lui dit « Tu sais, c'est vrai qu'il y a une halakha, c'est vrai qu'il y a la loi, et tu as la loi pour toi, mais tu as une obligation. Cette obligation-là, c'est pas seulement si on veut, c'est obligatoire. Mais peut-être pas pour tout le monde. Tout le monde n'est peut-être pas capable de le vouloir. C'est comme ça qu'on peut comprendre Vimlo, Arshav et Matai. Vous savez que tous les peuples de la terre ont toujours mis tout leur génie en essayant de faire fonctionner les lois. Vous ne trouverez jamais, dans aucun code de loi, une différence entre les personnes, que celui qui est plus riche ou celui qui est meilleur, a des obligations plus que les autres. Vous ne trouverez jamais que lorsqu'un ouvrier n'a pas de quoi manger, alors à ce moment-là, pas qu'on va demander la charité, on oblige le créancier, puisque l'autre n'a rien, non seulement à faire fi de la créance, mais en plus de lui rembourser le temps pendant lequel il lui a dévalisé son usine. On demande aux juifs de devenir tov et on lui demande de devenir tzadik. Ça, c'est une halakha. C'est à chacun de savoir où il se situe. Chacun de savoir où il veut aller. Mais la halakha, elle est qu'on trouve légitime qu'un juif, on lui impose d'aller bederer tovim. On lui impose orchot tzadikim tishmor. Ça, c'est la halakha. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Imlo Arshav et Matai. Nous, on n'est pas préoccupé par le fait de construire une société où tout le monde sera heureux. On essaie de savoir comment on peut faire pour que chacun soit heureux maintenant. La société, comment elle va être construite, ça ne nous a jamais intéressé. Moi, je dois savoir comment moi je dois me conduire. Moi, je dois savoir comment je peux développer le génie qui est en chaque personne du clan d'Israël. Construire pour l'avenir, faire des projets, des systèmes, ce n'est pas notre cœur. Et pourtant, on pense qu'au Mashiach, on ne pense qu'à l'avenir. C'est ce qu'il faut comprendre. Celui qui a un avenir, alors pour lui, le présent prend une valeur. Parce que son avenir va être constitué de tous les présents qu'il a affrontés. Son devenir, c'est tous les présents qu'il a surmontés dans sa vie. Si je n'ai pas d'avenir, je n'ai pas de présent. Le peuple juif a un présent. Imlo Arshav, si pas maintenant, et Matai, jamais plus. C'est ça ce que s'appelle Mizot Olamina Midbar. Monter du désert, c'est ça. Monter du désert, ça veut dire avoir un génie propre. Monter du désert, ça veut dire avoir une volonté propre. Im Einani Lim, il n'y a personne qui peut m'aider. Maintenant, il est évident que sans la Torah, sans Timrot Hashan, sans cette nuée qui conduit le peuple d'Israël, Urcheani le Hatzmi, si je suis livré à moi-même, Mani, je ne vaux rien. J'ai besoin de référence. Mais la référence, je vais l'intégrer. C'est pour ça que ça s'appelle Olamina Midbar. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, 13 ans lorsqu'il était jeune, il est resté dans une caverne. Il a étudié la Torah. Il a pris de l'extérieur. Mais c'est lui qui a travaillé seul. L'idée, elle est devenue la sienne. C'est pour ça qu'il s'appelle Mizot Olemina Midbar. Les Chachamim ont appliqué ce verset à Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Parce que lui était resté 13 ans seul dans une caverne avec son père. Ça fait qu'il y a des choses qu'on peut comprendre. On peut comprendre d'abord quelquefois ce qui nous entoure, les événements qui nous arrivent. On peut comprendre le problème qu'on puisse avoir avec les autres. Puisque cette montagne qui s'appelle Sinaï, des deux côtés, qu'elle s'appelle Sinaï et qu'on l'ait appelée Horev, ou qu'elle s'appelle Horev et qu'on l'ait appelée Sinaï, c'est celle qui a fait qu'on a des problèmes avec les autres. Yarda Sina Alav. Ça passe par là. On ne vous reprochera pas de ne pas avoir de terre. On ne vous reprochera pas de pouvoir vivre dans des sociétés différentes. Mais on vous reprochera d'être original. Ça veut dire qu'on ne peut jamais vous contrôler. Parce que nous, on est Olé Minamidba. Cette inégalité qui doit exister dans le peuple juif et qui existera fatalement, elle fait qu'on ne peut pas constituer une société comme les autres. On ne peut pas constituer une société comme les autres si l'on exige de la personne ce qu'elle peut donner et non pas le service qu'elle peut rendre à la société. Ça, c'est la différence entre la façon dont nous, nous devons vivre. Et c'est pour ça que la Torah a été donnée à chacun individuellement. Elle a été donnée à tout le monde ensemble et elle a été donnée à chacun individuellement. Au moment où le peuple juif a accepté la Torah, Yardou sont descendus du ciel des malachim, des anges, qui avaient 2 fois 600 000 couronnes et qui ont placé sur la tête du juif 2 couronnes, une Keneged Nas et une Keneged Nishma. C'est individuel et c'est collectif. Au niveau individuel, on peut même prôner l'inégalité. Avec ça, on ne bâtira jamais des sociétés comme les autres. Seulement d'un côté, on peut produire, parce que le produit vient du im'enani limini. Il vient du fait que on fasse les choses de l'intérieur. Et si elles sont faites de l'intérieur, il n'y a pas d'égalité. Il y en a un qui est obligé d'aller sur les voies des tzadikim, l'autre il est seulement obligé d'aller sur les voies des tovim, le troisième il est simplement obligé de faire le din, la halakha comme elle est. Maintenant vous pouvez comprendre ce qui est marqué dans le sifri. Dans le sifri il est écrit Amara Bishimon Bar Yochai. Halakhaï, c'est une halakha. Esav sonnait le Yaakov, que Esav a toujours de la haine pour Yaakov. Pourquoi halakha? Halakha, ça veut dire que c'est la démarche nécessaire. On ne peut pas vivre autrement. Parce que ce jour de Shavuot que nous nous allons fêter la semaine prochaine, c'est le jour où Yarda Sina Alav. Ce jour-là, les Umot HaOlam, et à partir de ce jour-là, les autres ne pourront plus se mesurer avec le peuple juif. Ça, c'est la faiblesse et ça, c'est la force. Il y a des gens qui croient en un avenir meilleur. Il y a des gens qui croient qu'on va construire une société égalitaire ou une société où il n'y aura plus d'antisémitisme. Rabbi Shimon Bar Yochai, ça fait 2000 ans qu'il a dit « Alachai Eisav sonne le Yaakov ». Notre problème, ce n'est jamais l'avenir, c'est le présent. Notre problème, ce n'est pas qu'est-ce qu'on va devenir. Notre problème, c'est comment réagir maintenant. « Imlo Arshav et Matay ». Quelqu'un qui a une force en lui, qui réagit par rapport à lui-même, son problème, c'est pas qu'est-ce que je vais faire après-demain, qu'est-ce que je vais devenir. Le devenir, il est assuré, il est garanti. Le problème est de savoir quel sera ton devenir. « Imlo Arshav » si ce n'est pas maintenant « et Matay ». Chacun a besoin d'un autre. Chacun a besoin d'écouter les autres. Mais ce qu'on écoute de l'autre, ça ne sera valable, ça n'existera qu'à concurrence de ce qu'on a investi soi-même, ce qu'on aura perçu, ce qu'on aura voulu percevoir soi-même. Imenani limin. Sans cette originalité, on ne peut pas vivre. C'est ça ce qui s'appelle Mizot Olam Min Hamidba. Si quelqu'un a ça, alors il peut être pourvu Mikol Av Katrochel. Il va avoir des idées. Il va avoir des possibilités qu'on ne va jamais trouver autre part. Ça, personne ne le pardonnera. C'est pour ça que ce Sinaï, c'est Yarda Sina Lomot, ou Yarda Chorav Lomot. Chorav, ça veut dire destruction. Celui qui n'a pas d'avenir. Ça, il faut le comprendre. On ne peut pas vivre autrement. Et c'est ce qui fait l'originalité du clan d'Israël. Ça fait aussi que l'on s'adressera toujours à l'individu et pratiquement jamais au clan entier. C'est l'individu qui est intéressant et c'est pour lui qu'il y a un peuple. Parce que si ani la atmi, ma ani, là je suis perdu. Mais la raison du peuple, elle est pour l'individu et non pas l'individu pour le peuple. Shavuot, c'est la fête de la Torah. On ne peut pas dissocier Shavuot du Sinaï. Nous, ces jours-là, on doit comprendre que Shavuot ne peut pas être dissocié de Sinaï. Et pour ceux qui voudraient l'oublier, pour ceux qui voudraient construire un avenir où on pourrait l'oublier, alors peut-être que les événements actuels lui feront comprendre que Shavuot ne peut pas être dissocié du Sinaï.